penser vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Un mot trop, et c'est un mort plus en orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et le pic du flingue de glace.
Les flics, la police, c'est le vice.
Et par des keufs se font planer, c'est connu, dans le Parisien t'as que des histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi.
Vois du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand un frère meurt,
un frère meurt.
Un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi.
Salut à toutes et à tous.
Oui, salut.
Vous êtes bien sur le 895 Radio Audio, la radio qui va à volo.
En FM et en stéréo.
Il est midi 2, vous êtes en train d'écouter l'émission du numéro 0. Numéro 0, c'est un média alternatif, participatif, qui permet aux personnes qui font et vivent l'actualité et qui se sentent concernées par un sujet de diffuser une info sur Internet ou sur la radio. Voilà. Les jeudis, une fois sur deux.
À la veille donc, de ce 1er mai, donc, du jour d'insurrection et de toutes les révoltes possibles et imaginables, eh bien, aujourd'hui, nous avons préparé un documentaire sonore. On parle de documentaire puisqu'en fait, il s'agit d'un long reportage. Ça va durer 3 quarts d'heure. Mais rassurez-vous, c'est plutôt bien rythmé, vous ne perdrez pas le fil de l'information. Il s'agit d'un montage réalisé grâce aux interviews qu'on a fait il y a quelques mois auprès de salariés du CHU de Saint-Etienne. Souvenez-vous, en décembre, nous avions déjà parlé d'un blocage de conseil d'administration au CHU de l'Hôpital Nord. Et donc, suite à ça, on a continué à rencontrer des salariés qui nous ont... parler de cet hôpital qui est en train de se transformer, qui est en train d'avoir un nouveau visage. Et voilà, et c'est pas sans oublier aussi cette actualité qui nous fait rappeler que le projet de loi Bachelot, patient, territoire, hôpital, blablabla, eh bien sera présenté bientôt au Sénat, puisqu'il a passé la première étape de l'Assemblée nationale. Donc voilà, je sais pas si... T'as d'autres choses à rajouter ?
Ben, juste qu'après, il y aura un petit montage sur la manif du 23 avril 2009 à Saint-Étienne. Voilà.
Et si le temps nous permet, à la fin, nous aurons l'occasion sûrement de présenter le petit agenda de l'émission du numéro 0. Donc, asseyez-vous confortablement. C'est parti pour ce petit documentaire. Ça bouge à l'hôpital.
Oh, no,
quoi d'étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles et aux hôpitaux qui ressemblent aux prisons? Quoi d'étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles et aux hôpitaux qui ressemblent aux prisons?
Prison?
L'hôpital véhicule des images contrastées. Un lieu d'accueil où l'on soigne et l'on prend soin, un lieu de rencontre. À son opposé, l'image d'un espace confiné et violent, où l'incertitude et la mort coexistent avec les machines et la science à qui l'on livre son corps. Dans tous les cas, un lieu de passage et de pouvoir.
En 1941, l'hôpital public devient un lieu accessible à toutes et tous, fortunés ou non. La loi Debré crée, en 1958, les centres hospitalo-universitaires CHU. Le rôle de l'hôpital public s'élargit alors. C'est à cette même époque que commencent à se dessiner les contours du secteur privé. En 1970, se profile le début d'une gestion de soins paritaires, privé-public.
Les successions de réformes et de plans de financement ont progressivement modifié les rôles et les statuts de l'hôpital public, jusqu'à ce que la gestion financière, la rationalisation et la compétitivité prédominent sur les notions d'offre de soins pour tous et les valeurs de soins de manière générale.
La loi Hôpital Patient Territoire Santé, qui sera présentée au Sénat le 11 mai prochain, viendra poser les dernières pierres à l'édifice. L'hôpital public, devenu déficitaire, devra être hôpital entreprise.
Dernièrement, nous avons vu pousser le nouvel Hôpital Nord, symbole de modernité et de dynamisme. Le CHU de Saint-Étienne, jusque-là réparti sur 4 sites, a rassemblé presque toutes ses activités à l'Hôpital Nord, impliquant d'énormes chantiers de restructuration et de déménagement. Pourquoi cette concentration? Quel changement pour les usagers et usagères? Quel changement pour les salariés?
D'un côté, les belles façades qui brillent pour rester attractifs et donc compétitifs, et de l'autre, pour éponger le déficit, un plan de retour à l'équilibre qui rime avec suppression de postes et suppression de vie.
Il nous paraissait important d'observer comment, à travers la restructuration de l'hôpital de Saint-Étienne, s'opère le même processus de privatisation qui a pu aussi toucher d'autres services autrefois publics que sont la SNCF, la Poste, EDF, etc.
Bonjour messieurs, dames, monsieur Cheracrac, sécurité incendie de l'hôpital Nord. Donc, je suis agent de sécurité incendie depuis 5 ans.
Voilà, ben, on se présente, hein, je suis Jean-Yves. Donc je recommence. Donc, bonjour, je me présente, je suis Jacques, ambulancier à l'hôpital. Et mon copain et collègue Jean-Yves fait le même travail que moi.
Moi, je m'appelle Véronique, je travaille dans un laboratoire d'exploration fonctionnelle en pneumologie et je suis à la CNT.
Moi, je suis Agnès Rouchouz, je travaille en psychiatrie sur le CHU et j'ai créé le syndicat il y a
95.
On a créé le syndicat à deux sur la CNT.
Je vais me présenter, donc Ipiri, je suis ce qu'on appelle un cadre de santé, c'est-à-dire pour dire autrement, je suis issu de la filière infirmière et je suis cadre.
Ça bouge à l'hôpital. Première partie.
En train de privatiser de plus en plus. Enfin, nous, on a l'impression qu'on est en train de casser l'hôpital public, quoi. Il y a de plus en plus de services privatisés.
Ils veulent arriver à travailler à la manière des privés. Donc, il faut que l'hôpital ira. Enfin, on a l'impression que l'hôpital, il faut qu'il rapporte, quoi. Voilà, on a cette impression-là.
aujourd'hui, il n'y a pas de service public. Aujourd'hui, il n'y a pas de service public. Pas de service public. Pas de service public. Le service public n'existe plus. Par exemple, le CHU, tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui est en train de disparaître sous sa forme sans doute statutaire, juridique, puisqu'actuellement il y a la réforme Bachelot, territoire, santé, patient, je dis ça dans le désordre, va sans doute mettre un terme au statut du CHU. Le CHU a été créé en 1958. Les premiers CHU, c'est 1900, donc c'est une cinquantaine d'années. Donc ça, voilà, on peut dire que c'est la fin d'une époque. Et c'est la fin d'une époque. Pas simplement parce qu'on va changer de statut, mais on n'est plus dans ce domaine vraiment du service public où rien n'avait un coût. La santé, c'était un bien, j'allais dire, de l'humain, de l'humanité, et qui devait être offert à tous et à toutes, peu importe les revenus des uns et des autres. Et donc, il n'y avait pas de coût au sens d'une, ce qu'on appelle d'une valeur d'échange. Hein, c'est-à-dire on va acheter une paire de chaussures, on la paye tant, et puis en échange de quoi, on a une chaussure qui convient plus ou moins. Là, ce n'était pas ça. Hein. C'était financé par la Sécurité sociale. Sécurité sociale qui avait été fondée après la Seconde Guerre mondiale, et qui était une chose importante. Elle avait été fondée par le Conseil national de résistance, parce qu'il y avait cette volonté de créer les conditions d'améliorer le sort de la population. Ben, c'est ça qui... fait qu'il y a sécurité sociale et qu'il y a l'hôpital public. Et puis d'autres services publics, hein, mais de cela en particulier. Et tout ça est battu en brèche au cours des années 70. La santé, à partir de ce moment-là, comme l'école, a commencé à être attaquée. Mais plus encore la santé, parce que la santé, ben, des gens sont arrivés en disant, il y avait des gestionnaires, en disant que ça avait un coût, qu'il fallait calculer tout ça, et qu'à partir de ce moment-là, il fallait que l'assuré social lambda, moyen, eh bien, il puisse avoir en tête que ça avait un coût quand il venait se faire soigner, quand il venait se faire opérer. Et petit à petit, on a mis dans la tête des individus que la santé avait un coût, qu'il fallait faire attention aux dépenses. On n'a pas arrêté de dire que la sécurité sociale était en déficit. Hein, le fameux trop de la sécurité sociale, hein, on a tous entendu parler de cela, qui ne cessait de grandir, etc. Et donc, comme l'hôpital est financé par la Sécurité sociale, eh bien, on a dit l'hôpital est sans doute, dans ce trou de la Sécu, la part la plus importante de ce déficit. Et aujourd'hui, si on parle de déficit, c'est parce que dans le privé, au sens classique du terme, une entreprise, on va parler de bénéfices, on va parler de pertes, n'est-ce pas ? Et bien là, l'hôpital, aujourd'hui, est touché par les mêmes mécanismes.
En évitant les gâchis de médicaments, les consultations inutiles, c'est peu de choses, c'est facile. Pourtant, ces petits gestes représentent des milliards d'économies pour la Sécu. Alors, pourquoi pas ?
Un radio scanner écho, moi je m'en sers à gogo. Dans tous les hôpitaux, je me fais prendre en photo. Dépenser, gaspiller, mais pourquoi m'accuser ? Je vais pas me gêner, puisque c'est remboursé.
Eh les mecs, faudrait vous faire soigner là.
La Sécu, c'est bien, en abuser ça craint. Les dépenses de santé, ça craint d'en abuser.
La Sécu, c'est bien, en abuser ça craint.
Je dirais simplement que nous en sommes là, il y a une série de cofacteurs, il y a des cofacteurs, il n'y a pas une seule raison, il y a plusieurs raisons. Raisons liées à la modification, on en parlera peut-être plus précisément, de l'hôpital, qui est passé d'un système ancien au sens, il avait fonctionné comme cela depuis environ plus d'un siècle, avec une organisation, service public, tout ce qui concourait au service public, à la gratuité des soins en psychiatrie, parce que je rappelle pour la psychiatrie, il y a la gratuité des soins. On a vu petit à petit se transformer ce décor avec l'arrivée du forfait journalier, qui est un droit d'entrée qui est payé par tous les patients. Hein. Donc pour la psychiatrie, il est moins élevé que pour les autres disciplines, mais il y a en quelque sorte un patient qui paye 12 euros par jour, quoi qu'il en soit. Voilà.
De sa poche.
De sa poche. Ça, il faut le savoir. Alors qu'autrefois, il y avait une réelle gratuité des soins en psychiatrie. Cette gratuité, d'ores et déjà, n'existe pas et n'existe plus déjà depuis de nombreuses années, depuis l'instauration de ce fameux forfait, hein, qui visait... À l'époque, on vous avait raconté l'histoire que c'était pour pallier aux dépenses et c'était pour essayer de mettre en place une sorte de régulation par le fait que chacun s'implique dans les soins. On a vite vu que ça, c'était une supercherie, une arnaque, et c'était une manière de faire payer les soins. Donc depuis 20 ans, c'est une même politique, hein. Il y a eu des pseudo-alternances, mais tout ça, c'est la poudre aux yeux. Et on a vu que l'hôpital, de plus en plus, s'est incliné vers ce qu'on appelle l'entreprise. Et aujourd'hui, il est pratiquement, on est dans une phase de finalisation pour donner tous les critères, ou mettre en place tous les critères qui font que l'hôpital est géré vraiment comme une entreprise.
Écoutez, qu'est-ce que le patient, attend aujourd'hui, n'est-ce pas? Il attend bien évidemment qu'on soit à l'écoute de ses problèmes, et surtout une meilleure prestation des soins, même à un prix un petit peu plus élevé. Je crois que pour la santé, on ne compte pas. Bon, il est certain que lorsque les clients, les patients viennent nous voir pour des maladies qu'on connaît ou qu'on soigne facilement, c'est moins intéressant pour nous. Nous préférons bien évidemment des maladies graves ou inconnues. Mais on ne peut pas trop leur en vouloir. Je tenais aussi à dire que le médecin doit être un petit peu le papa de ses clients, de ses patients, n'est-ce pas?
Tous les 5 ans, il y a des plans. Plan hôpital 2004, 2007, 2012. Le but de tous ces plans, c'est d'aller vers l'hôpital entreprise. Donc il y avait eu le plan hôpital 2007 où il y avait une nouvelle gouvernance. Donc ils ont restructuré l'hôpital en pôles. Donc ils ont mélangé des services qui n'avaient des fois pas toujours à voir avec. Et c'est une nouvelle gestion de l'hôpital pour casser ce qui existait jusqu'à présent et mettre plus de chefs. Et pour aussi avoir une nouvelle gouvernance, aussi une nouvelle façon d'avoir de l'argent. Avant, il y avait un budget global. Chaque service avait une enveloppe et puis il l'a dépensée. Tandis que maintenant, il y a la tarification à l'activité, ce qu'il y avait donc dans le plan hôpital 2007. Et ça, c'est l'argent vient s'il y a de l'activité, il y a de l'argent.
La tarification à l'acte, c'est pas rien, quoi. C'est vraiment donc un exemple concret. Une appendicite, ça vaut tant, hein, par exemple. Sauf que si tu as 25 ans, l'appendicite, effectivement, elle est cotée, je sais pas du tout les prix, hein, mais on va dire 1000 euros. Que tu aies 22 ans et puis que tu n'aies pas de soucis, donc tu sors le 3 jours, ils ont coté, soit ils doivent évaluer 3 jours pour une appendicite. Sauf que si tu arrives et que tu as 85 ans, que tu as un problème cardiaque associé, un problème pulmonaire, etc., ça ne sera pas les mêmes soins, il y aura d'autres choses à investiguer, il y aura peut-être d'autres conséquences, donc ce sera beaucoup plus long, et ça sera le même prix qui rentre.
Donc c'est plus cher, ouais, pour l'hôpital, mais elle...
Et il s'occupera un lit, on va dire 25 jours, hein, alors que c'est coté le même prix. Donc c'est là où ça va, hein, l'hôpital est obligé de recevoir les malades, ce qui n'est pas le cas pour le privé, il y aura vraiment une sélection. Et comme les services, du coup, l'hôpital qui aura reçu cette personne pour son appendicite qui aura eu 25 jours, il aura gagné, il aura gagné ses 1000 euros, sauf que c'est sur 25 jours. Il aurait pu en passer plein d'autres appendicites, tu vois. Et les services en difficulté, on dira, ah bah oui, mais là, vous ne tournez pas, vous n'êtes pas rentable, on les fermera. Hein, c'est dans ce sens-là où il y a une diminution de l'offre de soins à l'hôpital public.
La tarification à l'acte, ça a été présenté comme étant un moyen de que les hôpitaux soient plus déficitaires.
Ça a été présenté pour...
rétablir les comptes.
Non, pour vraiment qu'on rentabilise les actes. Parce que ils pensaient que c'était un moyen de gagner plus d'argent. Comme on fait de l'activité, on dit l'activité qu'on fait, comme ça on a l'argent en conséquence. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, ça c'est théorique. Dans la réalité, un médecin qui fait rentrer quelqu'un, tu disais, pour une appendicite, et puis après la personne elle va avoir de la fièvre, elle va faire une péritonite, et après le médecin, ça, il soigne, mais il ne va pas être gras de papier à tout noter l'acte qu'il a fait, donc après ça disparaît, quoi. Et il y a beaucoup dont on leur demanderait de faire beaucoup de papiers pour justifier ces actes. Et eux, en fait, ils font autant d'actes qu'avant, mais ils ne sont pas écrits noir sur blanc. Donc du coup, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et ça, quand ils ont inventé cette tarification d'activité, ils n'ont pas du tout pensé à ça.
Économique de l'hôpital et la complexité de son organisation impose de placer à sa tête un directeur, un vrai patron. Ce sera, comme l'a indiqué le président de la République à Bordeaux, un manager d'excellence. C'est l'intention du gouvernement. Un manager d'excellence. Un manager d'excellence. Un manager d'excellence.
Et il nous faut tenir compte de ce diagnostic. Et il nous faut tenir compte de ce diagnostic. Et il nous faut tenir compte de ce diagnostic. Les Français sont fiers à juste titre de leur système de santé. Néanmoins, celui-ci montre des fragilités. Les Français sont fiers à juste titre de leur système de santé. Néanmoins, celui-ci montre des fragilités et des difficultés. Et il nous faut tenir compte de ce diagnostic pour réformer en profondeur notre système de santé.
Après, il y a eu le plan hôpital 2012, et ça, c'est ce qu'on entend parler maintenant, la loi Bachelot, enfin, qu'on essaie d'appeler loi Bachelot, mais ça s'appelle hôpital, patient, territoire et santé. Donc là, c'est il y a la restructuration du SROSS, donc c'est ce qui s'appelle territoire santé. Le SROSS, c'est le schéma régional d'organisation sanitaire. Ça touche beaucoup la psychiatrie, mais ça existe aussi pour le somatique. Et maintenant, ils veulent regrouper les petits hôpitaux et les gros hôpitaux. Ils veulent que les gros hôpitaux, dans les grandes villes, s'occupent de tout, et que les petits hôpitaux s'occupent que de la gériatrie, que du médico-social. Et les gens qui n'ont plus de maternité, par exemple, ça a commencé par les maternités qu'on a supprimées.
Et puis, c'est non seulement ça avec Bachelot, mais c'est la mise en commun de moyens entre le public et le privé. Elle dit qu'il n'y a aucune raison que le public et le privé soient dans une concurrence et on va leur permettre de travailler ensemble. Mais la nature a horreur de ces synergies contre nature et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il y aura dans cette association-là un dominant et un dominé, comme dans n'importe quelle entreprise.
Avant, c'était bien distinct. Il n'y avait pas forcément d'urgence dans le privé, par exemple, où il n'y avait pas de lit de réanimation. Et puis maintenant, s'il y a trop d'activités chez nous, et ben déjà on le donne aux cliniques mutualistes, mais on le donnera même aux cliniques privées. Mais eux, en contrepartie, ils doivent respecter les tarifs de la sécurité sociale sur certains actes, pas sur tous. Donc déjà, ça veut dire que bon, bah, un petit truc pas très cher, on va le laisser au prix, mais après, derrière, faudra aligner les sous pour se faire soigner. Donc ça, c'est montre bien que c'est une médecine à deux vitesses. Ils veulent mettre dans le projet là de Bachelot, ils veulent mettre les laboratoires, les ouvrir au monde de la finance. Donc c'est ça en fait. Hein. C'est pour que les laboratoires soient rentables, qu'ils fassent, par exemple, il y a des petits examens, par exemple une simple prise de sang, ionogramme, ça ne coûte pas très cher, mais il faut absolument le faire. Alors l'hôpital ne veut pas parce que ça ne coûte pas très cher, ça fait beaucoup d'activités, donc dans un avenir qu'on connaîtra sans doute, pas si loin que ça, et ben ça va être donné au privé. Parce que le privé, il va prendre tous les petits labos qui existent, par exemple, et ben ils ne vont plus exister, et puis ils vont se regrouper avec l'hôpital. Et après, quand ça sera fait, et ben l'hôpital va donner toutes ses analyses biologiques au privé. Et ça, ils y pensent parce que déjà, quand ils ont construit là, ce nouvel hôpital, ils ont agrandi l'hôpital Nord, et ben, ils ont construit le laboratoire à part. Le pavillon de biologie, il est à part. Il ne touche pas l'hôpital. Quoi. Déjà. Et en plus, maintenant, dans le nouveau plan, avant, on avait des hôpitaux. L'ARH était l'agence régionale d'hospitalisation. Maintenant, ça va s'appeler l'agence régionale
de santé.
De santé, ouais, ARS. Et le type qui est à la tête de ça, il sera choisi par le gouvernement.
Ouais. Mmh. Tranquille.
Voilà. Je sais que le directeur, il aura moins de pouvoir qu'avant, qu'il devra rendre des comptes à l'ARS.
Peut-être c'est bien qu'une ou deux explique ce que c'est l'ARH et l'ARS un petit peu.
Ben, l'ARH, c'est ce qui s'occupait, c'était donc l'agence régionale d'hospitalisation qui s'occupait, qui donnait de l'argent. C'est l'intermédiaire entre l'État et l'hôpital, en fait, qui donnait de l'argent aux régions. Et puis chaque agence régionale d'hospitalisation ben, s'occupait de sa région et elle donnait de l'argent. Et puis il y avait des liens entre les deux. Tandis que maintenant que ça ne s'appelle plus ARH, ils ont remplacé le H par santé, eh bien, il va gouverner plus de choses. Il va gérer les hôpitaux, mais il va gérer aussi les médecins de ville et tout ce qui est médico-social. Donc c'est une mainmise de l'État sur...
C'est-à-dire qu'il a son mot à dire aussi sur les trucs...
Voilà, si par exemple il trouve que l'hôpital de Saint-Étienne a mal géré, bon bah avant c'était on montait de l'argent à droite à gauche ou ils empruntaient et puis bon ça se passait comme ça, tandis que maintenant la personne qui est à l'ARS, eh ben elle pourra bien plus remanier les gens qui sont chefs à l'hôpital en disant bon bah ce directeur il fait pas, voilà, je vais changer. C'est une mainmise de l'État encore plus importante qu'avant, parce que ça sera même peut-être plus national que régional, et puis avec plus de pouvoir.
C'est sur la base du rapport du sénateur Larcher que nous allons réformer l'hôpital. Un patron à l'hôpital. Un patron à l'hôpital. Un patron à l'hôpital.
Et moi, ce qui m'apparaît le plus important, si je devais faire ressortir un fait saillant, c'est qu'on a préservé le pouvoir médical dans l'hôpital. L'hôpital, c'est pas une entreprise.
Tout a été mis en place patiemment sur une vingtaine d'années pour arriver là où nous en sommes. En créant un nouveau type de gouvernance, ce sont les termes exacts, c'est-à-dire jusque-là, il y avait donc des administratifs, hein, qui étaient donc des directeurs, enfin des ingénieurs, enfin bon, tous ces métiers qui ne sont pas directement des métiers soignants au contact du patient. Et puis il y avait l'autre grande partie du personnel, c'était à la fois le médical et le paramédical. Et il y avait en quelque sorte une sorte de parité pour le moment. Ou même on pourrait dire que c'était le médical qui primait. Or on est en train d'inverser cela dans cette nouvelle gouvernance Eh bien, ce sont les directeurs qui ont la maîtrise des budgets. La finalité de l'hôpital, c'est de soigner des gens. Eh bien là, c'est plus simplement de les soigner, c'est de faire en sorte que, comme n'importe quelle marchandise, ça coûte le moins cher possible, que ce soit rentable, qu'il y ait la productivité, etc., etc., etc.
Dans cette logique où l'hôpital ressemble de plus en plus à une entreprise, pour rester compétitif et performant, l'hôpital Nord s'agrandit. Tandis que les travaux se poursuivent, de nombreux services déménagent des sites de Bellevue et de Saint-Jean-Bonnefonds. C'est ainsi que le site de Saint-Jean-Bonnefonds ferme ses portes en 2008. Chirurgie, médecine, psychiatrie et labo sont dorénavant tous regroupés sur l'hôpital Nord. Au moment des interviews, nous assistons au dernier déménagement de Bellevue à Nord et en particulier à celui des urgences.
Donc ils ont tout centralisé maintenant sur Nord. Donc maintenant, ils ont fait le bâtiment A, B qui est nouveau. Ils ont mis tous les services d'hospitalisation, la chirurgie, la médecine, bâtiment A. La chirurgie, bâtiment B. Il y a les urgences qui viennent d'ouvrir. Il y a tous les blocs, les nouveaux blocs au niveau zéro. Il y a la stérilisation.
La surface...
Ah oui, 160 000 mètres carrés. Oui, il y a un gars, il a pris un podomètre et tout. Il a fait 20 km.
Dans
tous les niveaux, un drone général par exemple. Mais les brancardiers, ils ont réussi à faire 27 km. Ils se sont mis un podomètre au pied, ils ont fait 27 km sur une journée. Hein. Même s'il n'y avait pas de patient, mais ils ont fait la distance comme s'ils allaient chercher un patient. Hein. C'est-à-dire les brancardiers et tout ça. 27 km moins 20 km, ça commence à faire déjà. Hein. Au pavillon d'urgence de l'hôpital Nord, il y a un point positif, c'est que les gens sont dans des boxes. Au moins, ils ne seront plus dans les couloirs. Mais bon, c'est la seule chose positive. Mais bon, les filles du PU m'ont dit, moi, il n'y a pas l'effectif qui suit. C'est-à-dire, bien sûr, on a rajouté des box. Mais l'attente, elle sera toujours là parce que l'effectif, ils réduisent l'effectif.
Quand ils ont restructuré l'hôpital, quand ils ont fait descendre Bellevue à Nord, le but, c'est de réduire le nombre de lits pour, si tout le monde est ensemble, ils peuvent se permettre de mettre en commun les personnels et peut-être de supprimer des lits, parce que chaque année, il y a des bilans d'activité. Il y a le nombre d'entrées, le nombre de... dans quel service ils sont allés, combien de temps ils sont restés. Donc, eux, ils voient par rapport au nombre de lits existants, ils se disent, bah, tiens, là, il y a une occupation qui est qu'à 70%, et ben pouf, on supprime 30%. c'est pas quelque chose de régulier. Il y a des fois, ils sont peut-être à 120%, et puis, je sais pas, moi, au mois d'août, ils sont à moins, alors ça fait une moyenne, mais il fallait pas supprimer ces lits, quoi. Ils manquent à des moments.
Oui, les moyennes, elles sont loin de la réalité, voilà, parce qu'elles prennent pas en compte les pics, des choses comme ça.
Oui, parce que ce sont des gestionnaires, et ils gèrent avec leur calculette, hein, et du coup, ouais, effectivement, c'est pas... l'humain, ils s'en foutent, la qualité du soin...
Hein, ah oui.
C'est pas voilà, c'est faut que l'argent rentre et puis voilà. Que ça soit. Après, comment ça se passe sur le terrain.
Par exemple, quand ils ont fait ce pavillon de biologie, eh bien, donc dans la tribune, on peut lire que c'est mieux, qu'il y aura. Vous avez écrit c'est pour éviter la redondance parce qu'il y avait des labos qui étaient à Bellevue, des labos qui étaient à Nord. Alors ils se disaient que quand un patient était muté, au lieu de chercher ses résultats, on lui refaisait sa prise de sang. Donc de tout mettre au même endroit, c'était bien. Alors là, c'était les biologistes qui s'étaient insurgés parce qu'ils disaient c'est pas vrai, on ne fait pas les examens en double. Et quand ils ont mis tous les labos ici, ben, sur le papier, c'est vrai que s'il y a une personne de nuit à un endroit, une personne de nuit à l'autre, si on les met au même endroit, on ne va en mettre plus qu'une. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est qu'il y aura quand même autant d'activités. Donc ça ne va pas marcher, la personne elle va être débordée. Mmh. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont mutualisé plusieurs laboratoires, mais en divisant presque les effectifs par trois. S'ils ont mis trois labos ensemble, ils divisent les effectifs par trois, parce qu'ils disent cette personne elle va faire tout ça. Mais ce qui ne compte pas, c'est le temps pour former les gens, que quand on connaît bien ces outils, quand on connaît bien l'appareil sur lequel on travaille, on va être bien plus rentable. Parce qu'on va, dès qu'il y a une petite panne, dès qu'on voit qu'il y a un petit truc, on sait que c'est ça qui ne va pas, c'est ce tuyau qu'il faut changer ou des trucs comme ça. Tandis que quand ils mutualisent tout, les gens ne connaissent pas les appareils. Et du coup, quand l'appareil est en panne, il n'y a plus personne pour faire l'analyse parce que l'appareil est en panne. Et maintenant, ce qui se passe dans le pavillon de biologie, c'est qu'ils ont tout mélangé et qu'il y a déjà eu des bourdes. Et puis, il faut qu'il y en ait une grosse pour que ça se sache. Mais les gens, ils sont vraiment, ils sont mal. Ils sont vraiment mal. Et moi, j'en parlais à midi avec une fille et je lui dis, mettez-vous en grève. Parce qu'un laboratoire où elle a été formée en 2 mois et là, ils ont 2 jours pour apprendre le travail.
En décembre 2008, le personnel du CHU de Saint-Étienne occupe le conseil d'administration. Quelqu'un rappelle que restructuration rime avec fermeture de lit.
Au pavillon 50 à Bellevue, donc qui vient de les services de gériatrie qui viennent de déménager sur 3 étages, une infirmière la nuit pour les 3 étages. Est-ce que là on va dans la qualité du soin? Est-ce que là on va dans la qualité du service à la population? Est-ce que là on va dans le soutien au personnel et dans la capacité au personnel d'assumer correctement son travail? Avec le passage des services de Bellevue à Nord, il y a un certain nombre systématiquement de suppressions de lits. On prend le cas par exemple de l'orthopédie. Il y a 74 lits à l'heure actuelle. En passant à Nord, on passe à 54 lits. Pareil pour la chirurgie viscérale et thoracique, 115 lits. Les passages là, de Bellevue à Nord, ils vont se faire maintenant, tout de suite.
Et là, dans cette mise en place de l'hôpital sur Nord, on est dans la réduction du temps d'hospitalisation. À savoir qu'en psychiatrie, c'est bien compliqué pour savoir si la personne, bien sûr, peut sortir rapidement, c'est tant mieux et ça se fait. Hein. Là, ça sera prévu à l'avance pour des séjours de 3 semaines. Ça veut dire du coup un recours massif aux thérapies, ce qu'on appelle les thérapies brèves, comportementalistes, cognitifs, qui ne sont pas adaptées pour soigner la psychose, entre autres. Le recours à nouveau aux électrochocs, il y a 4 lits d'électrochocs qui sont prévus sur ce lieu-là. Le fait que ça soit installé et il va falloir que ça soit rentabilisé, on a de grandes inquiétudes par rapport aux indications qui vont être posées, avec tous les risques que ça court. de recevoir des décharges électriques sur la tronche. Donc voilà comment ça se passe. Hein. On est toujours devant le fait accompli, dans une précipitation à certains moments, où on a déjà repoussé l'installation des lits d'électrochoc. Là. Hein, on a vu la direction, on a dit non. Ils avaient tout le médecin, le professeur, psychiatre, avaient tout organisé avec des anesthésistes pour que les électrochocs se fassent en bonnes conditions. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu l'équipe de soins, l'équipe infirmière ici, qu'ils allaient avoir 4 lits d'électrochocs dans leur service. Hein, ils leur ont annoncé le jeudi, ça devait se mettre en place le lundi. On l'a vu de près là, au niveau du CHU, là. C'est encore en psychiatrie, mais je pense que ça aurait pu être un autre service là, pour le coup. Un CNP, un service de consultation à la charité, où il y a eu des problèmes. Hein, l'équipe, je passe les détails, en tout cas c'est remonté, nous on était là avec les autres syndicats pour entourer les collègues. La seule proposition qu'ils ont fait, et il n'y a rien eu à YouTube, c'est de fermer le service. Hein? Alors qu'effectivement, cette équipe, on l'avait laissée depuis 2004, depuis la restructuration, sans projet, sans médecin, enfin dans des conditions pas possibles de boulot, où l'équipe s'était dépatouillée, on va dire, mis des choses en place, mais à un moment donné, un peu inévitablement, problème. Ça remonte, ils ont fermé d'un jour à l'autre en octobre, là, c'était pendant le salon. Ils ont fermé d'un jour à l'autre le service. Pour le réouvrir sous une autre forme, avec moins de personnel et puis avec une autre politique de santé. Hein. Dans ce cas-là, mais parfois ça ferme réellement. Les maternités, ça s'est quand même aussi passé comme ça. Non, non, on laisse péricuter, regardez, il n'y a presque plus. Et puis on ferme.
Ils ont fait les urgences aussi en face de la déchetterie. Et de la chaufferie. C'est pas très recommandé tout ça. Hein? Voilà. Mais il y a des gens qui réfléchissent, il paraît, à l'hôpital.
Il y a des grosses aberrations quand même. Hein. On sait que le camion les urgences, le camion de pompiers rentrait, mais il ne peut plus sortir. Hein, donc, mais bon, c'est ensemble, c'est projets gigantesques. Qui ont un assez gros déficit, mais en même temps, ces déficits, c'est pas aussi gigantesque que ça. Hein. L'argent, on en a trouvé pour les banques, pour l'industrie automobile en très peu de temps. Les 2 milliards d'euros tout de suite permettraient un rééquilibre, là, je dis, sur un tract, hein, de l'ensemble des établissements sanitaires. Hein. Donc, c'est vraiment une politique de santé, là, aujourd'hui.
L'État cherche à se débarrasser de ce service public, la santé, l'éducation.
C'est pas pour être.
Non, mais c'est l'argent qu'a le gouvernement, il le répartit mal et il donne de moins en moins d'argent à l'hôpital, donc c'est facile de dire que l'hôpital est déficitaire si on ne lui donne pas de l'argent. L'hôpital, il vend rien, il fait que des dépenses.
Puisqu'on en est à parler de fric, un détail qui n'en est pas un. Le chantier pour agrandir l'hôpital Nord a été annoncé à la hauteur de 140 millions d'euros, soit presque 5 fois plus que le déficit du CHU.
Ce que nous avons convenu au début de l'année avec le conseil d'administration, c'est que le CHU faisait un certain nombre d'efforts de maîtrise de ses dépenses, qu'en contrepartie, l'agence apportait dans la limite de ses moyens, puisque nous n'avons pas de planche à billets, un certain nombre de sommes, nous sommes allés très sensiblement au-delà.
Le directeur général, pour ce qui me concerne, je voulais quand même rappeler que nous avons tous choisi de servir le service public. Il y a un principe qui nous a trahi. Écoutez, si je ne peux pas m'exprimer, alors écoutez. Un des principes fondateurs du service public que la République nous a confié, c'est l'adaptation du service public. que la médecine évolue, les besoins de santé changent. Nous devons adapter notre outil de travail aux besoins de santé d'aujourd'hui. La population vieillit, les pathologies se déplacent. Il y a des méthodes thérapeutiques qui changent. Nous devons adapter notre outil de travail. Si nous ne le faisons pas, c'est d'autres qui le feront. Nous devons adapter notre outil de travail. Il y a des méthodes thérapeutiques qui changent. Nous devons adapter notre outil de travail. Si nous ne le faisons pas, c'est d'autres qui le font. Si nous ne le faisons pas, c'est d'autres qui le font.
Le discours des gestionnaires repose sur le dogme du modernisme à tout prix. Ce sont de véritables efforts de guerre qui sont demandés. L'hôpital doit être moderne, le service public doit s'adapter aux nouveaux besoins de la population, la réalité impose des changements, restons tournés vers l'avenir et non le passé. Le regroupement de services au sein de pôles d'excellence illustre cette pensée. Projet d'établissement, nouvelle gouvernance, plan de restructuration sont autant de termes qui cachent en réalité des fermetures de lits, la suppression de postes, l'optimisation de l'activité et l'externalisation de certains services, à savoir leur privatisation.
Du CHU de Saint-Étienne, parce qu'il fallait se moderniser, mieux prendre en charge les populations, améliorer les conditions de travail, c'est écrit noir sur blanc quand même dans le projet de modernisation du CHU. Et 4 ans après, au moment où les choses se mettent en place, on est dans une situation encore pire qu'avant. Si, les personnels qui travaillent, écoutez-les, entendez-les. On devrait améliorer les conditions de travail. Je ne parle pas des conditions d'accueil, c'est vrai que quand on sort du vieil champ pourri où il n'y avait même pas un WC, à ce qu'on a actuellement au niveau architectural, au niveau accueil hôtelier, c'est effectivement rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Là, on ne peut que faire ce constat. Par contre, en ce qui concerne vraiment la prise en charge, le nombre de personnes auprès des patients, comment on s'en occupe, etc., c'est de pire en pire. Et le but, un des buts de la restructuration du CHU de Saint-Étienne, qui était d'améliorer les conditions de travail, on est complètement à côté. Elle se dégrade de jour en jour.
Ce qu'on vous redemande, hein, et qu'on n'a pas entendu de réponse, c'est le gel des suppressions de lits et le gel des suppressions de postes. Hein. C'est de ça dont il s'agit.
Je rappelle que le nombre de lits ont été négociés avec les chefs de service, qui correspondent à des réalités.
C'est une diminution de l'offre de soins à la population.
C'est faux, monsieur, c'est faux. Quand vous avez 40% de l'occupation, il n'y a pas de diminution de l'offre de soins.
Et où ça, 40% d'occupation pour les lits?
Écoutez, on a fait vos calculs avec les chefs de service, on s'est mis à faire. Même si la masse salariale ne doit pas être la seule variable d'ajustement, elle ne peut pas rester à l'écart de cet effort de retour vers l'équilibre, sachant que d'un établissement à l'autre... La part des dépenses de personnel est très sensiblement plus élevée. Cette part est très sensiblement plus élevée à Saint-Étienne que dans d'autres CHU de même taille.
Vous parlez de qualité des soins, mais elle est déjà touchée. Vous parlez de la qualité de vie des personnels, mais il y a bien longtemps qu'elle est touchée. On fait des semaines de 6 heures, de 7 heures, des journées de 10 heures, de 11 heures, pour garder l'humanité, pour pouvoir faire des choses avec les patients qui ne soient pas le minimum, parce que vous en foutez, vous pouvez qu'il y ait des noms et des postes.
Des taux de remplissage, des pourcentages.
Mais ce n'est pas ça le travail. Il faut maintenir les gens, par exemple, en psychiatrie, dans l'humanité, de leur garder ce côté. Et ça, ça demande du monde. Ça demande de l'énergie. Là, vous parlez de sérénité, mais il y a bien longtemps qu'on n'a plus la sérénité. Les gens, ils partent en retraite. Ma génération est en train de partir en retraite. Mais moi, j'ai vu des gens qui pleuraient par rapport à ce qui se passe, qui ont construit pendant 35, 40 ans des choses et qui voient tout se détruire. Mais c'est terrible. Moi, je vois des gens qui rentrent chez eux tous les jours, insatisfaits de leur journée de travail. Mais c'est terrible de vivre ça.
Je vous l'accorde, hein, c'est pas...
Non, mais moi, je veux que vous sachiez que c'est ça. Derrière votre truc, votre bureau, c'est ça qu'on vit, c'est ça.
D'avance, un grand merci donc à toutes ces personnes qui ont bien voulu donner leur point de vue sur cet hôpital en pleine mutation, en plein changement. Je crois qu'on a eu assez d'informations là-dessus. À préciser aussi que le prochain épisode de ce documentaire, si on peut modestement appeler ça un documentaire, donc le prochain épisode sera dans 2 semaines, donc à la prochaine émission du numéro 0, donc jeudi dans 2 semaines. Voilà, si vous souhaitez réagir en tant qu'usager, usagère par exemple de l'hôpital, n'hésitez pas à nous faire parvenir des témoignages, des avis à l'émission, à la boîte mail du numéro 0 qui est emissionradio@fastmail.net.
La convergence.
Et tout de suite, donc l'émission touche à sa fin et c'est le moment de retrouver l'agenda du numéro 0.
Yo, et on commence tout de suite du coup par une annonce.
J'aurais vraiment pas compris.
Une annonce pour aujourd'hui, jeudi 30 avril. Du coup, rendez-vous à 14h à Tréfilery pour préparer une sorte de petite surprise militante. Et voilà, rendez-vous à Tréfilery. Il n'y a pas plus de trucs annoncés. Je pense que la discrétion est de mise, mais c'est quand même bien que vous sachiez le rendez-vous. Alors voilà, rendez-vous à Tréfilery à 14h aujourd'hui.
Voilà, ensuite demain c'est le 1er mai et d'habitude souvent moi je trouve ça très plan-plan et inintéressant, mais là vu le contexte je me dis que ça va être sûrement très bien et il y a pas mal de trucs prévus. Alors déjà il y a un cortège de l'université toujours en grève qui va démarrer de la fac, donc demain 1er mai à 9h30 et je crois qu'il vous appelle à amener vos cagoules parce qu'il ne faut pas s'enrhumer quand on va en manif.
Je crois que c'est en réaction par rapport à l'annonce là, de Sarkozy de faire une loi contre le port de la cagoule qui criminaliserait le port de la cagoule. Après, il y a comme d'habitude le départ à 10h de la Bourse du Travail le départ de tous les syndicats et tout ça. Moi, je trouve que ça peut être bien de venir avec un lit pour la manif du 1er mai. Parce que la fête du travail, ça peut se fêter aussi dans son lit. Mais ça peut être quand même bien d'être à la manif, du coup, histoire de mêler les deux. Et puis après, à la fin de la manif... Oui, le travail tue. Et la fin de la manif, normalement, finit place Jean Jaurès. Et il y a, du coup, comme d'habitude, je pense, la buvette de la CGT qui s'installera. Et ce coup-ci, la petite particularité du truc, c'est que le collectif sans papier va payer une sorte de pique-nique. Et voilà, du coup, vous êtes tous et toutes invités à venir partager un moment de convivialité à la fin de la manif avec les gens du collectif sans papier.
Et puis, vite fait aussi, dans l'après-midi, enfin à partir de midi ailleurs, il y aura un repas puis une fête tout l'après-midi. C'est à l'Amicale Laïque de Beaubrun. Donc, voilà, il y aura un repas pour 2 euros et puis la fanfare Niffrin et autres festivités.
Et ça, j'ai chopé ça là sur le site de Réseau Citoyen. Mais à 13h, il y a un pot au parc de Montaut. Bon, vous voyez, tout c'est, je pense, le parc de Montaut. Et un pique-nique géant. Mais je pense que c'est mieux d'aller au pique-nique. Bon, bref.
C'est la concurrence des pique-niques.
Ouais, c'est la guerre des pique-niques. Mais bon, c'est ça aussi, les fêtes syndicales, quoi. Et surtout, alors moi, le truc que j'avais relevé, c'est pour ça que j'annonçais ce truc que je trouvais intéressant, c'est que du coup, demain à 14h30, au parc de Montaut, il y aura une sorte de session gueuloir, poème de révolte et d'espoir, avec l'idée de lire plein de poésie d'auteurs connus, genre Aragon, Mahmoud Darwish, et pas mal d'autres gens qui ont écrit des jolis trucs sur la révolte. Après, est annoncée une buvette populaire à 16h30, et à 17h, Les vieilles femmes et la mer, de Yanis Ritsos. Je pense que c'est des lectures de textes. Et voilà, c'est à l'initiative des Nuits du Petit Théâtre de Montaut, le Théâtre du Verbe et le Comité d'Animation du Parc de Montaut, pour finir le 1er mai en beauté.
Donc ensuite, je vais revenir sur la fac, la grève à la fac, donc, qui a démarré en janvier, qui n'est pas finie. Donc l'Assemblée Générale, d'il y a 10 jours, a décidé à voter l'arrêt du blocage. Mais il y a encore pas mal de grévistes, étudiants et personnels qui continuent à occuper la fac et à la faire vivre autrement et à critiquer les réformes et tout ça. À savoir qu'il y a toujours l'Université solidaire qui est en train d'établir son programme pour mai, donc vous pourrez vous renseigner très bientôt. Ce lundi à 13h, il y aura une AG étudiante, donc à la fac de Tréfilerie. Et mercredi prochain, ce sera une journée banalisée. Ils ont négocié ça avec la présidence, vu qu'ils sont en grève, d'avoir une journée banalisée par semaine pour leurs activités de grévistes. Et donc, ce sera mercredi prochain, à 10h, une manifestation partira de Tréfilerie et finira par un pique-nique à l'hôtel de ville avec surprise. C'est le mois des pique-niques.
Alors voilà, si ça a du sens pour vous, les blocages à la fac, n'hésitez pas à passer les voir, parce que je pense que c'est pas facile de maintenir la lutte dans ces conditions-là. Et le même jour, moi je voulais annoncer que le mercredi, du coup, 6 mai à 19h, au remue-ménage, il y a un café citoyen, rencontre avec le réseau Sortir du nucléaire pour réfléchir ensemble à comment en finir avec le nucléaire. Voilà.
Alors, vous avez autre chose à annoncer ?
Oui, pour finir, il y a à Calais, est prévu du 23 au 29 juin 2009, un camp No Border. Un camp No Border, c'est quoi ? C'est un regroupement de personnes qui luttent pendant une semaine au moins à un endroit précis pour la liberté de circulation de toutes et toutes, la fin des frontières et des contrôles. Et aussi pour un appel à un mouvement radical contre les systèmes de contrôle qui divisent entre citoyens et non-citoyennes et entre avec et sans papier. Voilà, on en parlera plus la prochaine fois.
C'est quand
C'est à Calais du 23 au 29 juin 2009. Voilà.
Ah, on aura l'occasion d'en reparler. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle sera rediffusée aujourd'hui même à 17h. Voilà.
Bon, bah d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve dans 2 semaines avec la deuxième partie de Ça bouge à l'hôpital.
Ouais, deuxième partie. Ciao, à dans 2 semaines.